Le journal Adia Tupoukou. À la une de cette édition, la grève des médecins prend une dimension inquiétante à Kinshasa. À partir de ce lundi, seulement deux formations médicales de l'État vont recevoir les urgences pour l'ensemble de la capitale. La décision a été annoncée par le syndicat des médecins dans un communiqué de presse. Situation tendue hier à Bukavu dans le sud Kivu. Un étudiant a reçu un coup de machette au front de la part d'autres étudiants qu'il accuse de collaborer avec le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, cette information de dernière minute. Un casque bleu népalais mort, trois autres blessés. Tel est le bilan d'une opération conjointe MONUC-FRDC lancée hier dimanche contre les miliciens du Front des nationalistes et intégrationnistes dans le territoire de Mahagi. Entre-temps, le sort de sept autres casques bleus népalais ayant pris part à ces opérations reste confus. La mort de ce soldat onusien intervient alors que l'on célèbre aujourd'hui la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Ici à Kinshasa, la mission des Nations Unies organise une session d'information publique à l'intention des étudiants et élèves de certains établissements. Cette session d'information sera animée par les contingents ghanéens, uruguayens et tunisiens. Le directeur de la division de l'information publique de la MONUC explique le sens de cette journée. Monsieur Kemal Saïki est au micro de Kélin Kouté.
Aujourd'hui, c'est le 29 mai, c'est le jour où la communauté mondiale marque la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Cela fait suite à une décision qui avait été prise par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2002 et qui avait décrété que le 29 mai serait une journée dédiée à toutes les femmes et tous les hommes qui ont servi et qui servent encore dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. En raison de leur niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage. C'est aussi un jour de souvenir, puisque nous célébrons la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix.
À Kisangani, l'Association des médecins congolais pour la paix, affiliée au Réseau d'action mondiale sur les armes légères, s'implique dans la lutte contre les armes légères. Cette association organise une semaine mondiale d'action contre ce genre d'armes. Le président de l'Association Médecins Congolais pour la Paix a présenté ce week-end aux parlementaires et candidats parlementaires de la province orientale une pétition. Cette dernière va donc contre l'État congolais et lui propose d'ailleurs un plan pour faciliter l'État congolais à s'investir pour la lutte contre la circulation et l'usage abusif des armes légères. Docteur Simon Bokongolo-Fofo, au micro de Léon-Jacques Mwamba.
Le Congo, c'est vraiment une poudrière, quoi. Il y a beaucoup d'armes en circulation au Congo et nous devons pratiquement faire un effort pour que la République démocratique du Congo s'investisse dans ces programmes d'action des Nations Unies dans la lutte contre la circulation illicite et l'usage abusif des armes légères. Nous avons surtout fait appel aux hommes politiques, aux décideurs politiques, aux parlementaires pour qu'ils puissent incorporer dans la législation congolaise les éléments de lutte efficace contre les armes légères. Deuxièmement, nous disons à la population congolaise que non, avoir une arme, ce n'est pas une sécurité, mais c'est pratiquement une source d'insécurité et même des désastres pour soi-même et pour l'environnement.
Au Nord Kivu, c'est plutôt l'ONG Action pour un Congo pacifié en développement, ACPD, en sigle, qui s'implique dans la lutte contre la circulation illégale d'armes. Cette ONG a organisé, quant à elle, une opération de récupération d'armes. Elle donne des tôles aux habitants qui vont remettre leurs armes. L'opération a été lancée il y a quelques mois dans les territoires de Masisi et de Rutshuru ainsi qu'à Goma. Cependant, l'initiative de l'ACPD est mal perçue par certains observateurs du Nord Kivu. Ces derniers estiment que cette opération a plutôt favorisé le commerce illégal d'armes, comme l'explique ici Sylvestre Kilolo.
L'opération est perçue comme ayant échoué puisque au lieu d'assister à un désarmement, on a assisté à un véritable commerce illégal d'armes. Les autorités militaires et de la police aussi se plaignent de n'avoir pas été associés dans l'affaire. Ils ont même été victimes des vols des armes dans leurs unités. Monsieur Jean-Luc Baen Ndalaïtse, vice-président de la CPD, dit que tout avait été discuté avec les responsables.
Nous avons la coopération qui est active d'ailleurs auprès de l'administrateur du territoire de Masisi. Nous sommes allés aussi voir le major qui est le chef de l'unité de la police de Masisi, le colonel Kavunderi qui est le commandant bataillon de Masisi, la partie de la MONUC, les observateurs comme les contingents indiens qui sont à Masisi.
Toujours selon les responsables de la CPD, Plus de 330 armes sont déjà remises aux autorités de la province et 50% de celles-là étaient collectionnées à Massissi. La remise d'une arme donne droit à 20 tôles, mais certaines personnes disent n'avoir pas encore reçu de tôles pour les armes qu'ils ont remises. Ce que nie la CPD qui ajoute que seul un dernier groupe qui a remis récemment n'a pas été servi à cause des incidents qui ont surgi entre eux et les autorités militaires qui les reprochaient de garder les armes dans des maisons des civils. Différentes personnalités sur place perçoivent que les responsables ont pris la fuite puisqu'ils seraient en insécurité, mais ces responsables ont démenti ces opinions. Ils ajoutent qu'ils sont toujours sur terrain à travers leurs sensibilisateurs et que ces derniers continuent à remettre les armes à la MONUC Massissi. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Direction Sud Kivu, où l'on signale des tensions cette nuit à Bukavu. Un étudiant a été agressé dans sa chambre par un groupe d'étudiants qu'il accuse de collaborer avec le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique. D'après plusieurs sources, dont le porte-parole des étudiants, l'étudiant en question aurait reçu un coup de hache au front et serait grièvement blessé. On écoute le témoignage d'un étudiant qui a assisté à la scène, mais qui n'a pas souhaité être cité pour des raisons de sécurité.
En ouvrant la porte, nous étions à 5, on a su qu'il y a un groupe d'étudiants qui sont munis de bâtons, de haches, de couteaux, de machettes. Nous avons demandé quelle est votre ambition maintenant. Nous, nous cherchons l'injanja, nous voulons maintenant le punir. C'est ainsi qu'on a pris l'injanja. À côté de la porte, l'un d'eux a commencé à le fouetter le bâton. Un autre lui a bâti un couteau au milieu de la tête. En voyant le sang coule très fortement, comme nous étions à 5, on a retiré l'injanja juste dans la chambre. Directement, on a vu lancer une machette aussi dans la porte. On a ouvert la porte. On a demandé, non, c'est quoi maintenant? Non, nous voudrions maintenant que vous puissiez nous donner l'injanja. On a soutenu la porte très fort et aussi ils ont poussé la porte jusqu'à ce qu'ils aient déchiré la porte.
Des propos recueillis par Michel Chirimwami. Sachez aussi que l'étudiant blessé a été secouru par la MONUC vers 1h du matin. Il a été évacué vers un hôpital dont le nom n'a pas été communiqué. À noter que le climat est très tendu sur ce campus après l'expulsion de 3 étudiants il y a environ un mois par le comité de gestion de l'ISP. Situation également tendue ce week-end dans la localité de Chamoubenda à 15 km de Kolwezi. C'est dans le Katanga plutôt. Un véhicule de la Gécamine Kolwezi a été mis à feu par un groupe de creuseurs en colère. Selon des témoignages recueillis par le maire adjoint de Kolwezi, ces creuseurs se sont soulevés suite à la confiscation de leurs minerais par un commandant de la garde industrielle de la Gécamine. Reportage.
Selon le maire adjoint de Kolwezi, l'histoire a commencé lorsqu'un commandant de la garde industrielle de la Gécamine a croisé un groupe de creuseurs en train de charger de la malachite à bord d'un véhicule. Le commandant de la garde industrielle s'est alors saisi et du véhicule et des minerais. Les creuseurs ont d'abord protesté parce que la malachite n'est pas exploitée par la Gécamine. Il s'en est suivi une discussion à l'issue de laquelle ils auraient remis au commandant 60 000 francs congolais afin que leurs produits soient libérés. Mais le commandant ne l'a pas fait. Pris de colère, les creuseurs ont vivement menacé le commandant de la garde industrielle. Ce dernier a alors fait appel à des éléments de la police militaire. Arrivés sur les lieux, les militaires ont tiré des coups de feu en l'air pour disperser les creuseurs. Et le commandant de la garde industrielle s'est enfui, abandonnant ainsi les véhicules de la Gécamine. C'est alors que les creuseurs l'ont brûlé. Contacté, l'inspecteur de la garde industrielle de la Gécamine, Kolwezi, n'a pas voulu s'exprimer. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Nous vous le disions en titre, la grève des médecins prend une dimension inquiétante à Kinshasa. À partir de ce lundi, seulement 2 formations médicales de l'État vont recevoir les urgences pour l'ensemble de la capitale. Il s'agit de l'hôpital de référence de Njili et le centre mère et enfant de Barumbu. La décision a été annoncée dans un communiqué de presse. Le syndicat national des médecins déclare dans ce communiqué que leurs revendications n'ont toujours pas abouti. Ainsi, ce syndicat a décidé la radicalisation de la grève. Écoutons le docteur Mankoy Badjoki, secrétaire exécutif provincial du SINAMED. Il est au micro de Mimi Engumba Moulongo.
Aujourd'hui, lundi 20, c'est l'hôpital général de référence de Ndjili et le centre mère enfant de Barumbu qui déclarent les urgences. Je parle bien des urgences. Demain, mardi 30 mai 2006, c'est la clinique Ngaliema et le centre hospitalier d'État de Matete.
Mais pour les accidents et d'autres cas urgents qui se présentent dans d'autres coins de la capitale, sont-ils obligés de se rendre à Ndjili et Barumbu seulement?
Oui, c'est comme ça. Ils seront à Ndjili, soit à Barumbu. Mais les malades peuvent aussi se rendre dans les institutions privées.
Avec toutes les conséquences?
Justement parce que le gouvernement qui doit assurer la santé de la population ne s'en occupe pas. Par rapport aux amis médecins, nous leur demandons seulement de respecter le programme de polarisation tel que ça a été donné. Parce que ceux qui s'abstiendront seront passibles de peines déontologiques.
Par rapport justement à cette nouvelle dimension de la grève des médecins, notre reporter Jacques Matonde s'est rendu à l'hôpital de référence de Ndjili. Il a pu remarquer une affluence des malades.
Les salles d'urgence de l'hôpital de Ndjili continuent à recevoir des nouveaux cas. Certains malades attendent dehors le temps d'être reçus par le médecin. D'après les infirmiers trouvés dans la salle des urgences adultes, la salle risque de ne pas contenir tous les nouveaux cas d'ici la fin de la journée. D'autres infirmiers nous ont déclaré qu'aujourd'hui ils ont observé une forte affluence de malades plus que d'habitude. Pendant ces temps, les salles d'urgence de l'hôpital général de référence de Kinshasa sont désertes. Aucun cas d'urgence n'a été enregistré cet avant-midi. Les lits sont vides, aucun médecin n'a été trouvé, même dans les cabinets médicaux. Dans les couloirs, nous avons pu rencontrer quelques médecins et infirmiers qui nous ont déclaré qu'ils observent un service minimum pour les malades déjà internés à l'hôpital général de référence. Depuis l'hôpital de référence de Ndjili, Jacques Matonde pour Radio Okapi.
Ouvrons le cahier social avec d'abord l'inauguration le week-end dernier par la FAO des ponts sur l'axe Mwenedi-Tumulundu au Kasaï oriental. Ces ponts d'une importance capitale pour la région vont désormais permettre l'évacuation des produits agricoles vers les principaux centres urbains de consommation. Les détails avec Julien Nyamouini.
Au total, 5 ponts ont été entièrement réhabilités par la FAO sur un axe de 50 km entre la ville de Mwenedi-Tou et la localité de Mulundu, située à plus de 170 km au sud de Mbujimayi. C'est le Royaume de Suède qui a financé la réhabilitation de ces ponts pour un montant global de 90 000 dollars américains. Ces fonds avaient un double objectif, a souligné Justin Fabien Bondonga, consultant national de la FAO, en charge des routes, désenclaver cette partie du Kasaï oriental et d'autre part, permettre l'évacuation de produits agricoles de la région, notamment du maïs, du manioc, les haricots, les pommes de terre, vers les centres urbains de consommation. Ce n'est pas tout. Il s'agit également pour la FAO de réduire la vulnérabilité de la population de cette contrée par la production de boutures saines de manioc sur un champ d'environ 10 hectares. Le maire de la ville de Mwenedi-Tou, Michael Kazadi-Tchouput, a déclaré lors de la cérémonie que l'inauguration de ce pont mettait un terme aux difficultés d'approvisionnement de Mwenedi-Tou. Julien Nyamouini, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans le Katanga, c'est le début des travaux de reconstruction du pont ferroviaire Niema dans le nord de cette province. Ce sont avant tout des travaux de consolidation avant la mise en place du pont qui, lui, a été monté en Belgique. L'entreprise EGMF Malta Forest exécute les travaux pour le compte de la coopération technique belge. Les populations des provinces du Katanga, Maniema et Kasaï attendent beaucoup de ce pont qui va favoriser les échanges commerciaux. Expédite Mwamba Mubi pour les détails.
La première phase des travaux a démarré au mois d'avril dernier. Il s'agit de consolider les berges de la rivière Niemba et de rectifier le cours d'eau. Selon le conducteur des travaux, il n'a pas été facile d'effectuer le terrassement et la coulée de béton à cause des pluies abondantes. Nous avons dû travailler de jour comme de nuit. Nous avons consommé 3000 litres de carburant, a-t-il expliqué. Toujours d'après lui, les travaux de consolidation vont prendre 3 mois. C'est seulement après que la pose du nouveau pont ferroviaire pourra intervenir. Pour rappel, le nouveau pont de Niemba a été financé par la Belgique. Et c'est dans ce pays qu'il a été monté avant d'être mis en place à Niemba. Selon des sources diplomatiques, le Royaume de Belgique a investi dans le projet la bagatelle somme de 2 500 000 euros. D'après un responsable de la SNCC, le nouveau pont est déjà arrivé en pièces détachées à Lubumbashi. Kalemi, Expédie Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Un seul titre en page internationale, ouverture aujourd'hui à Dar es Salaam des négociations directes entre le gouvernement du Burundi et les Forces nationales de libération, FNL en sigle, dernière rébellion en activité dans ce pays qui tente de sortir de plus de 12 ans de guerre civile. Il s'agit des premiers pourparlers directs entre les FNL et le gouvernement issus des élections générales de 2005. Lors d'une cérémonie marquant le début des discussions, le président tanzanien Jakaya Kikwete a lancé aux représentants de la rébellion et du régime de Bujumbura que toute guerre doit finir, même si elle laisse des cicatrices sociales, psychologiques et politiques chez les belligérants et dans la population.